Radio Okapi.
Okapi Service. Ta team en Poukou.
Okapi.
Bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment décrocher de l'emploi dans un environnement multiculturel, dans une entreprise ou dans une ONG internationale? Nous en parlons avec Alain Poutou, il est formateur et coordonnateur du Centre de Réconversion et Insertion Professionnelle. Bonjour Monsieur Alain Poutou et bienvenue dans ces rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Monsieur le journaliste, merci beaucoup de votre invitation. Je profite de votre micro pour saluer tous les auditeurs de ces magazines Okapi Service.
Chers auditeurs et auditrices, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler. Pour intervenir en direct par SMS, envoyez vos commentaires, questions, suggestions et témoignages au numéro 099-706-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous lisons par exemple les commentaires que nous a écrit Adelar Ngengele de Kisangani. Selon cet internaute, décrocher un emploi dans une ONG internationale sans relation et à l'absence d'une recommandation équivaut à attendre les bateaux dans un aéroport. Nous attendons également vos commentaires dans le courriel dénommé service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Debsa Vita réalise et s'occupe de la prise de son de ces rendez-vous. Et Paul Badianyama est à l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment décrocher de l'emploi dans un environnement multiculturel, dans une ONG internationale, dans une firme internationale? Nous abordons ces sujets dans cette première partie du magazine Okapi Service. Chers auditeurs et auditrices, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Et nous en parlons avec Alain Poutou. Nous rappelons qu'il est formateur et coordonnateur du Centre de Réconversion et Insertion Professionnelle. Nombre de jeunes diplômés congolais rêvent de faire carrière dans un environnement multiculturel, notamment dans les agences des Nations Unies ou dans une organisation internationale, dans un organisme international. Et pourtant, trouver un emploi dans un environnement multiculturel demande à la fois des compétences requises et une bonne capacité d'adaptation dans un milieu multiculturel. Et ces facteurs constituent une barrière pour de nombreux candidats, car les procédures de recrutement sont parfois rigoureuses et très compliquées pour certains candidats qui ne sont pas suffisamment rodés. Alors, comment décrocher de l'emploi dans un environnement multiculturel, dans une ONG international, dans un organisme international? Nous abordons ce thème avec Alain Poutou. Nous rappelons qu'il est formateur et coordonnateur du Centre de Réconversion et Insertion Professionnelle. Monsieur Alain Poutou, c'est possible pour des jeunes de trouver de l'emploi, d'arracher un contrat dans un organisme international?
Merci beaucoup monsieur le journaliste pour votre question. Étant donné que votre magazine a un caractère de formation et d'orientation.
Et de pédagogie.
Et de pédagogie aussi, effectivement. Mmh. Je voudrais ici, avant toute chose, brosser les tableaux de l'emploi. Parce que comme on a toujours dit qu'un problème mal compris sera mal résolu. J'ai suivi ce que vous avez lu par rapport à la réaction d'un auditeur à Kisangani. Mm. J'étais en train de sourire. Les problèmes, c'est quoi? C'est qu'on a deux types de marchés.
De marchés d'emploi.
Oui, marchés d'emploi. Deux types de marchés d'emploi. Mm. Il y a les marchés ouverts et les marchés fermés. Alors, les marchés fermés, c'est lesquels? C'est les marchés selon lesquels vous rencontrez un collègue avec qui vous avez été à l'université. Mmh. Il vous informe qu'il travaille dans tel établissement ou dans tel ministère. Mais vous vous posez la question à quel moment l'offre d'emploi avait été publiée.
C'est-à-dire... Comment est-ce qu'il a fait pour trouver de l'emploi dans ces ministères, dans cet établissement?
Effectivement, là on est dans ce qu'on appelle les marchés fermés. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on forme les gouvernements, il y a la répartition des portefeuilles ministériels est faite en tenant compte de poids politique. On sait par exemple que tel parti politique ou tel regroupement devait prendre tel ministère. Mmh. Au sein de ces ministères aussi, il y a des établissements ou des entreprises publiques.
Qui dépendent de ces ministères.
Voilà, de ces ministères-là. Mmh. Ce qui fait que les patrons des états-majors des partis politiques confectionnent déjà les listes.
Des entreprises qu'ils vont gérer.
Ils déposent les listes et du coup, on recrute ces gens-là. Là, il n'y a pas des offres d'emploi.
Ça, c'est les marchés fermés.
Oui.
Dans le domaine des recrutements.
Dans le domaine des recrutements. Mm. C'est-à-dire, là, on fait référence aux recommandations, on fait référence aux parapluies. En fait, le système est tellement que vous ne pouvez pas comprendre comment ça fonctionne. Mais tous les jours, les gens sont
embauchés.
Mm. Voilà. Donc, ça, c'est ces marchés fermés. C'est pour cela qu'il faudrait que les auditeurs puissent vraiment comprendre la différence entre les deux marchés. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse généraliser. Il faut vraiment qu'on puisse circonscrire les marchés. Donc, c'est dans les marchés fermés qu'il se pose de sérieux problèmes. Là, on ne tient pas compte même des compétences. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'une personne devient, par exemple, ministre ou la personne est nommée mandataire, DG, DGA, c'est-à-dire, du coup, pour constituer son cabinet, il prend les siens. C'est ce qu'on voit ici. Mmh. Ce qui fait que quand vous partez, il y a remaniement et qu'on doit renouveler l'équipe gouvernementale, celui qui viendra ne va pas continuer avec l'équipe qu'il a trouvée. Il vient aussi avec ces gens. Voyez, c'est dans ces marchés fermés là où vous êtes au bureau, on vous amène des gens, vous vous posez la question, mais nous n'avons pas publié l'offre ici. Voilà, la personne qu'on nous amène ici, c'est pour quel but?
Voyez, personnes qui, qu'elles soient compétentes ou pas, on vous amène.
C'est lui qui vient, veut à tout prix aussi donner de l'emploi aux siens. Mm. Ça, c'est les marchés fermés. Maintenant, moi, j'aime plus, monsieur le journaliste, mettre l'accent sur les marchés ouverts. Ouvert. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les relations, n'a pas de parapluie, comme cela fonctionne dans les marchés fermés.
Ouais, c'est quoi les marchés ouverts dans le domaine des recrutements?
Très bien. Les marchés ouverts, c'est les marchés par lesquels les offres d'emploi sont publiées. C'est-à-dire, les recrutements, c'est fait sur base des avis d'appel d'offres ou des avis
de vacances. Et des critères préétablis
par
l'entreprise.
Tout à fait. Ça, c'est les marchés ouverts. Mais le problème, c'est quoi? C'est un marché verrouillé. Un marché compliqué avec des exigences qui ne cadrent pas avec les profils de ceux qui cherchent de l'emploi. Il faut par moment qu'on se dise la vérité. Le plus grand problème, monsieur le journaliste, que nous avons dans ce type de marché, c'est qu'il y a l'inadéquation, il y a l'incompatibilité entre la formation universitaire et les exigences du marché de l'emploi. Ça ne cadre pas. Donc, à l'université, on a des filières, on a des facultés, des départements qui n'ont rien à voir avec les titres de les postes qu'on trouve dans les offres. Vous êtes un journaliste expérimenté, vous êtes professionnel. Si vous regardez les différents sites internet pour lesquels les offres d'emploi sont publiées, vous regardez les profils recherchés, vous comparez...
Les termes de référence et les avis de vacances des
tout
postes.
Tout à fait, les job descriptions. Mm. Vous comparez ça avec
les profils académiques.
Personne a fait à l'université comme étude, mais c'est les jours et la nuit. Maintenant, les gens, le fait qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un sérieux problème de l'inadéquation, de l'incompatibilité entre les profils recherchés par les recruteurs et les produits que l'université déverse sur le marché de l'emploi, les gens crient toujours que pour trouver de l'emploi, il faut avoir
des parapluies. C'est compliqué, alors, il faut passer par des relations.
Voilà, circonscrire les marchés. Si on parle du marché fermé, je leur donne raison. Mais quand on parle de marché ouvert, le plus grand problème, c'est qu'il y a l'inadéquation entre la formation universitaire et les exigences du marché de l'emploi. Vous regarderez par exemple, j'ai regardé Média Congo avant de venir dans ces studios, il y a des offres d'emploi que j'ai trouvées là-bas. Mm. Mais qui est-ce qu'on cherche? On a besoin des logisticiens. On a besoin des chargés du charroi automobile. On a besoin des spécialistes en monitoring, suivi, évaluation. On cherche les gestionnaires des projets, des assistants administratifs. On a besoin des assistants financiers et comptables. On a besoin
des auditeurs.
Voilà, en passation de marché. Mmh. Des auditeurs, des mobilisateurs communautaires. Les experts en relèvement communautaire. Mais regardez à l'université. Vous pouvez me citer quelle université ici au Congo qui a la filière de passation de marché? Ça existe où?
Je
quelle
connais
filière
pas.
Ici au Congo qui a université ici au Congo qui a la filière de suivi et évaluation. Moi qui vous parle ici, j'ai eu ces cours en sciences commerciales et financières, les cours d'évaluation des projets. Mais vous savez ce qui m'avait choqué lorsque j'ai commencé à travailler à l'Organisation néerlandaise de développement, mmh. Je vois ce que fait un chargé de suivi et évaluation.
Et ce qui a été enseigné.
Avec le cours de VAPRO qui m'avait été enseigné à l'université, je me dis, mais c'est.
Les jours et la nuit.
Les jours et la nuit. Donc, c'est là le problème. Deuxième élément, messieurs les journalistes, la mauvaise orientation lors des choix de filières d'études à l'université. Qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que les gens choisissent les filières à l'université en tenant compte de ce qu'il a fait aux humanités comme études. Au lieu de tenir compte de l'employabilité
des ouvertures,
voilà, d'une filière.
Qu'offre la
Elle
filière
a fini où il a
au
fini
lendemain des études.
En latin philo, mmh. Lui n'aime pas trop des calculs. Il doit aller faire soit la communication, le journalisme, les droits.
Les sciences et lettres.
Parce que, voilà, il s'est dit, bon, il y a mon cours de l'histoire romaine qui semble correspondre à comment fonctionnent les cours des tribunaux. Il y a beaucoup de jargons en droit qui ont tiré leur origine en latin. Puisque je n'aime pas des calculs, je préfère aller faire les droits.
Ou bien on a un enfant qui est trop bavard, on dit vous devez faire le journalisme ou la communication.
Mmh. Donc ça c'est une erreur. Celui qui a fini en chimie biologie va faire la médecine.
Forcément la
ou
médecine.
Les sciences infirmières. Mmh. Celui qui a fini en maths physique va aller faire la polytechnique ou il fait l'ISTA. Mais les gens ne se posent pas de questions. La filière que j'ai choisie à l'université ici. Mmh. Ça quelle employabilité? Quelle est son employabilité par rapport à la réalité actuelle du marché de l'emploi. Troisième élément qu'il faut noter, il y a la mauvaise présentation du dossier des candidatures. Quand bien même qu'il y a des offres d'emploi, mais messieurs les journalistes, il faut comprendre les marchés d'emploi comme si on est dans un marché commercial. Il y a l'offre, il y a la demande.
Ici, et dans ces marchés, il y a la dimension compétitivité.
Tout à fait. Mmh. Alors, les gens ne savent pas présenter les dossiers des candidatures. Ici, j'ai fait allusion à quoi? Je parle d'un CV et de la lettre de motivation. Alors, ici, les gens sont habitués avec un modèle de CV
standard.
Déjà unique, standard qu'ils ont.
Ils partent au cybercafé, il y a un modèle type, ils changent de nom.
Voilà. Mmh. Alors que à chaque poste correspond son CV. Le CV que vous rédigez pour les postes,
il faut l'adapter à la vie des vacances des postes.
Voilà, ne doit pas être le même que lorsqu'il s'agit d'un poste, par exemple, d'un comptable.
Non.
Vous voyez, ça, à l'université, on n'enseigne pas ça. Il faut qu'on soit clair sur ce point. Il y a la lettre de motivation. Mais la lettre de motivation, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est cette lettre qui vous permet, vous, au fait, de décrire ce que vous savez faire par rapport à ce que l'offre d'emploi attend. Mais est-ce qu'à l'université, on enseigne ça? Un autre élément. Regardez un peu, monsieur le journaliste, tous les ribambelles de cours qu'on a à l'université, où quelqu'un choisit une filière, mais il se retrouve avec des cours saturés qui n'ont rien à voir avec les job description d'un poste. Quelqu'un qui fait le marketing, il a des cours de mathématiques, il a des cours de l'histoire du Congo, il a des cours de VIH-SIDA, mais quel rapport entre ces cours et le travail que vous devez faire sur le terrain? Alors, allons-y maintenant à ce qui anime ces cours-là. Monsieur le journaliste, vous savez, par moments, ça choque et ça fait mal à la fois. Comment pouvez-vous imaginer qu'une personne qui n'a jamais occupé le poste de comptable toute sa vie, mais il enseigne les cours de comptabilité à l'université. Qu'est-ce qu'il enseigne aux gens?
Les théories, les définitions, ou
il donne les cours de comptabilité?
Il donne les cours de comptabilité,
il ne forme pas des comptables. Non. Parce que lorsque vous devez aller chercher de l'emploi, vous ferez face à des exigences professionnelles, pas académiques.
Vous êtes en face des praticiens.
Mais tout à fait.
Des praticiens de ces métiers-là.
Tout à fait. Mmh. Alors, ces organisations internationales, il faut comprendre une chose, monsieur le journaliste. En fait, on ne fait pas tout à fait carrière dans ces organisations. Ces organisations travaillent sur base des projets. Sur base
des
programmes.
Qui s'inscrivent sur un délai.
Exact. Mmh. Généralement, vous avez des contrats d'une année. Mmh. Qu'on peut renouveler s'il y a la reconduction de financement.
Oui. Mmh.
Des programmes, ça peut aller jusqu'à 4 et 5 ans.
Alors, ce sont des postes qui reposent sur des exigences.
Tout à fait. Mmh. Et lorsqu'on doit recruter, en ce moment-là, on n'a pas besoin de prendre une personne qu'on doit former. Mmh. Qu'on soit bien d'accord sur ce point. Mmh. On ne prend pas quelqu'un qu'on doit former. On a besoin d'une personne qui doit être opérationnelle aussitôt arrivée. Mais le système éducatif, dans sa configuration actuelle, ne permet pas à la personne qui finit les études universitaires d'être capable de répondre aux exigences du marché de l'emploi.
Monsieur Alain, dans cette émission, on donne également la parole donc à la population. Ils attendent, les auditeurs sont au standard, donc on va quitter les studios pour aller au standard. Et par après, nous allons retourner ici pour continuer les débats. Comment décrocher de l'emploi dans un organisme international, dans un environnement multiculturel? C'est de ces thèmes que nous sommes en train d'aborder dans cette première partie du magazine Okapi Service avec Monsieur Alain Poutou. Nous rappelons qu'il est formateur et coordonnateur du Centre des Réconversions et Insertions Professionnelles. Si ces thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Okapi. Le premier auditeur, M. Alain, il appelle depuis la ville de Kisangani, c'est Blaise Saïdi, à qui nous disons bonjour.
Bonjour, cher Tati.
On vous donne la parole.
Bonjour à l'invité et auditrice et auditeur de la radio Capi. Cher Tati, étant que la thématique est tellement pertinente, nous aurons quelques questions à poser à l'invité. Néanmoins, on doit commencer par quelque chose. Cher Tati, travailler dans un environnement multiculturel représente une opportunité enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Pour y décrocher un emploi, il ne suffit pas d'avoir les compétences techniques. Il faut culturel et des capacités d'adaptation. En développant son intelligence interculturelle, en favorisant ses expériences internationales et en communiquant de manière inclusive, un candidat augmente considérablement ses chances de réussite. Voici quelques questions que je pose à l'invité, cher Tati. Mmh. Question. Quels obstacles peuvent surgir dans un environnement multiculturel? La deuxième question. Quelles qualités et compétences sont recherchées dans ce type d'environnement? La troisième question. Quelle initiative pourrait-il prendre pour s'intégrer dans une équipe multiculturelle? Je me limite à ces trois questions, cher Tati.
Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Et nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani, dans la Tchopo, que vous avez pris la parole. Excellente journée. Cette fois-ci, on part à Vienne pour donner la parole à Monsieur Franck, à qui nous disons bonjour.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour Monsieur l'invité qui est avec vous au studio.
Nous vous écoutons.
Oui, merci beaucoup. Je crois que ce que vous êtes en train de dire là, ce sont des réalités vraiment fondamentales et existentielles qui concernent notre vie en tant que citoyen congolais et par rapport auxquelles on doit arriver à trouver des solutions durables.
À recadrer situation, oui.
Oui, voilà. Dans la plupart des cas, moi personnellement, je me rends compte que notre système éducatif, notre système de formation offre des programmes de cours qu'on suit du début jusqu'à la fin. Mais quand on arrive vers la fin de la formation et qu'on doit se mettre à chercher du travail, on se rend compte que il y a des inadéquations entre ce qu'on a appris et ce que exige le marché d'emploi. Alors, dans la plupart des cas, dans certains pays, on arrive quand même à offrir encore d'autres formations avant d'embrasser certains métiers, avant d'embrasser certains emplois. Ou après avoir obtenu vos diplômes universitaires, vous devez encore suivre une formation pratique de 2 mois, de 3 mois, de 6 mois pour s'adapter exactement aux réalités du terrain. Mais le problème qui est là chez nous, la plupart des compatriotes sont encore, ce que j'ai dit, esclaves de la diplomie. Les gens veulent seulement avoir des diplômes, autant de diplômes sans expérience pratique. Alors, les gens pensent que dans la plupart des sociétés ou des ONG, surtout à caractère international, on voit seulement les titres académiques ou les titres universitaires, alors que dans la plupart des cas, dans des sociétés, c'est la productivité, l'efficacité, si le profil répond par rapport aux attentes. C'est comme ça que quelque part, quand il y a des offres, c'est diffusé, il y en a qui se retrouvent là. On lui demande de présenter un CV suivant tel critérium. Lui va seulement se mettre à répéter ce que lui a appris. Et oui, là, je crois que de ce côté-là, il y a des...
Monsieur Franck, les universités supérieures organisent des stages académiques et également professionnels pour les candidats qu'ils forment.
Oui, mais il y a stage et stage, ce ne sont pas tous... Il y a des instituts supérieurs à caractère pédagogique, à caractère technique et tout ça. Il y a des stages qui s'organisent. Mais qu'est-ce qu'on apprend à ces gens-là qui vont dans des stages? Là aussi, il y a encore un petit problème. Parce que c'est souvent sur vos ondes qu'on suit ici que la plupart des candidats se plaignent. J'étais à tel endroit, on ne voulait pas me donner accès à tel document, on ne voulait pas me donner accès à telle machine. J'étais là seulement en train de regarder comment on faisait. On ne m'a pas tellement initié. Il y a toujours ce problème-là d'intégrer les nouveaux venus. Il y a toujours ce problème-là de verrouiller un peu le système pour que ça reste seulement profitable pour une catégorie. Mais personnellement, ce que je suggérerais, c'est d'assouplir un peu le système de formation. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir des candidats convenablement formés, des hommes vraiment instruits. Mais il n'y a pas que les diplômes qui peuvent vous donner autant d'emplois dont on a besoin. Donc, c'est pas seulement en étant licencié, docteur, en étant... Il y en a qui ont gagné leur vie avec un diplôme de gradué, mais il a suivi une bonne formation en informatique. Il devient un grand informaticien et il a tout. Et je crois que pour le moment, ce n'est pas seulement les diplômes qu'il faut promouvoir partout, mais ce sont des compétences à caractère pratique, technique et scientifique. Et au XXIe siècle, c'est surtout du côté informatique. Vous avez quelqu'un qui fait
l'informatique, les nouvelles technologies,
mais il doit aller quelque part, la communication. Pour que son travail de licence soit saisi par quelqu'un. Lui-même ne sait pas travailler un texte. Quelqu'un qui fait l'informatique, il a de la peine à travailler un petit texte. Et quelqu'un comme ça, s'il doit compétir pour un test quelque part là, il va donner quel résultat?
On ne va pas le retenir.
Il y a autant de problèmes d'abord au niveau interne. Et je crois que tous ces problèmes-là doivent être repensés. Et c'est le rôle de l'État de chercher à répondre aux aspirations de ses citoyens par rapport aux impératifs, aux urgences du temps. Mais pas seulement dire « nous avons fait ceci ». Nous avons donné alors que sur place, on se rend compte qu'on n'avance vraiment pas.
Merci beaucoup, M. Franck, pour tes suggestions qui sont fondées, qui paraissent, à mon avis, fondées. L'invité aura également le temps de mettre son point de vue par rapport à tes propositions. Excellente journée. Cette fois-ci, M. Alain, on part à Arou pour donner la parole à M. Chrysostome, à qui nous disons bonjour.
Oui, bonjour, M. Tati, et bonjour à l'invité.
Nous vous écoutons.
Oui, la thématique est pertinente, surtout dans un pays comme la RDC, où de nombreux jeunes diplômés pleins d'espoir rêvent d'intégrer des agences internationales comme les Nations Unies et d'autres institutions à dimension multiculturelle. Ces milieux professionnels, souvent perçus comme le sommet de la réussite, exigent effectivement des compétences solides, une bonne maîtrise linguistique, notamment l'anglais,
les français,
capacité d'adaptation à des cultures diverses. Mais si les barrières techniques sont déjà sérieuses, Ils montrent une réalité beaucoup plus choquante, freine l'accès équitable à ces emplois. La marginalisation de la méritocratie au profit du favoritisme. Dans les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi ou Goma, on constate avec regret que les processus de recrutement dans ces institutions, bien qu'habilités d'un vernis de transparence, sont souvent influencés à courir par des considérations non professionnelles. Les postes sont souvent attribués non pas à ceux qui sont les plus méritants, mais à ceux qui sont les mieux connectés, affadés, névétés ou amis proches d'une personnalité influente. Cette injustice est encore plus criante pour les jeunes de milieu réguliers comme chez nous ici à Arou, qui, malgré nos diplômes, nos motivations, nos volontés de bien faire, se retrouvent systématiquement exclus des opportunités simplement parce que nous n'avons pas les bonnes connexions ou parce que les grandes institutions internationales n'ont même pas de représentation locale ici. À Arou, les talents existent, mais il est ignoré. Le mérite est là, mais personne ne le voit. Il est temps de tirer la sonnette d'alarme, monsieur Tati. Si les institutions internationales se veulent réellement porter des diversités et d'égalité des chances, alors elles doivent commencer par garantir des processus de recrutement transparents, accessibles à tous et basés uniquement sur la compétence. Il faut ouvrir les portes aux talents de toutes les provinces, y compris celles oubliées comme Ituri, Bajou et les, et mettre fin à cette injustice financière qui fait de l'origine géographique ou du carnet d'adresse un critère d'embauche. Mais c'est-à-dire, les Congos regorgent des talents. Parce qu'il faut leur, il faut leur donner les chances partout, même chez nous ici à Arou.
Monsieur Chrysostome.
Oui, monsieur Tati.
Voilà, vous avez des questions particulières à poser à l'invité, au-delà de ce que vous avez évoqué comme clientélisme, et même dans les organismes internationaux.
Bon, et ils sont comme nos représentants. Tout ce que nous leur demandons, c'est de plaider notre cas, c'est de plaider pour nous que les agences internationaux puissent aussi avoir des postes ici. Donc, après, ce que je peux dire, c'est La sélection doit être transparente et ça doit intégrer tous les horizons.
Merci beaucoup, Monsieur Chrysostome. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Arou, en Ituri, que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Lubumbashi et on va donner la parole à Achille. Achille, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Et bonjour, Tati. Bonjour à tout le monde.
Nous vous écoutons.
Merci pour la parole. Alors, je voudrais donner juste une petite expérience, parce que pour avoir travaillé avec une ONG internationale concernée, dans le passé, un membre de la famille était tombé malade. On l'avait amené dans un centre de santé dans le quartier. Là, quand on est parti, j'avais entendu parler que donc, il y avait une campagne de vaccination contre la poliomyélite. Alors, je m'étais approché pour demander. Bien sûr, on m'avait dit qu'on cherchait des relais communautaires ou des recours pour cette campagne-là. C'est comme ça on m'avait pris. On avait été formé, on avait reçu un petit briefing. On est allé dans une campagne-là de 3 jours, on nous payait $5 par jour. Pendant ce temps, j'avais déjà un diplôme de licence en génie électrique. J'avais quand même accepté de faire ce petit boulot-là, malgré les découragements de la famille, parce que la famille ne voulait pas faire ce petit boulot-là. J'ai dit que non. Et ça commence petit à petit, ça peut venir toujours. Après, des jours passés, des centres de santé-là avaient été financés par une ONG dont je parlais concernant. On nous avait appelé et qu'on avait besoin de motards pour aller à Chamouana. À Chamouana, c'est dans les Tanganyika, dans le territoire de Manoua. On avait besoin de motards. Alors, j'ai dit non, je pouvais saisir l'occasion parce que je connaissais mon manière à cet agent-là. J'avais postulé, j'étais passé, nous avait pris. Nous sommes allés à Chamouana, c'est un peu loin, par les dépenses dans le nord du Katanga. Arrivé là-bas, parce qu'il y avait des blancs, il y avait un problème d'électricité. Et on a dit non, qu'il fallait lancer une offre pour chercher des électriciens. Vu que j'étais dans les domaines, j'avais saisi de cette occasion, Dieu avait aidé, j'étais passé. Momentanément, là, j'avais été chargé de cette mission pour rentrer le marché, chercher des caisses de panneaux, des batteries. Et là, j'étais chargé de recruter une autre personne. Donc, je suis parti d'Ereco à Montar pour être électricien. Ainsi de suite. Et puis, j'avais aussi été chargé de la logistique. Mmh. Donc, ici, je voudrais plus dire que non. De nos jours, beaucoup de jeunes, nous devons d'abord bannir cet esprit-là d'orgueil. Quels que soient les diplômes que nous pouvons avoir, acceptons d'abord de commencer même avec les petits-là. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un pourrait accepter d'être un relais communautaire et travailler pour 5 dollars. Par exemple, vous, M. Tati, vous avez votre diplôme de licence, je ne sais pas, de journalistes. Je ne sais pas si vous allez accepter ou pas. Bon, ça concerne que vous-même. Nous avons cet orgueil, non, parce que je suis un avocat, je ne peux pas faire ce petit boulot.
Ouais. On néglige les petits commencements, les petits départs, les premiers pas.
Voilà. Donc, c'est en commençant par ce petit boulot-là que mon CV était devenu petit à petit riche. Parce que je suis passé des Rico, motards, électriciens, puis j'avais suivi beaucoup d'autres formations, notamment des enquêteurs en nutrition, et ainsi d'insuite. Jusqu'à ce jour, que mon CV était devenu un peu riche.
Costaud, oui.
Grâce à ce petit boulot-là, j'ai ouvert beaucoup de portes dans beaucoup d'ONG. Mm. Travaille dans le Tanganyika. Donc, à travers ces petits-là, j'avais quand même accepté, quel que soit les diplômes que j'avais, j'avais quand même accepté, je suis parti de là. Donc, on peut partir de zéro à héros, parce que donc, tout est possible. Donc, ayons seulement l'esprit, bannissons seulement l'orgueil, acceptons de travailler, même si c'est petit, peut-être c'est là que Dieu fait ouvrir tes portes.
Merci beaucoup, Monsieur Achille. Merci beaucoup pour ton témoignage assez parlant, assez édifiant dans votre parcours professionnel. Bac plus 5, mais vous avez accepté de commencer comme relais communautaire et puis motard pour acheminer les médicaments d'un point A à un point B. Et par après, vous avez eu un poste qui répond à votre profil académique. Merci beaucoup, c'est très encourageant votre témoignage. Excellente journée. Rappelons que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, on part à Bukavu, Monsieur Alain. On va donner la parole à Monsieur Éminent. Éminent, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio et à tout le monde au studio.
Nous vous écoutons.
Bon, je vous félicite d'abord pour avoir cherché à relancer le débat qui frappe vraiment la vie au quotidien des Congolais.
Merci.
Comment décrocher l'emploi là? Ici à RDC, parce que nous savons que après les études, normalement, quelqu'un doit travailler. Mais actuellement, les conseils les diplômés des universités, si pas même des écoles secondaires, se mettent dans le monde de recherche d'emploi, jusqu'à ce que la recherche de cet emploi-là devient un emploi en question. Nous avons des expériences. Ce que le précédent éditeur a dit est vrai. Il faut d'abord commencer par le petit pour arriver au plus grand. Mais le grand problème est que nous pouvons vraiment avoir. Nous avions déjà participé à beaucoup de concours où on dit qu'on est en train de chercher telle personne. Mais avec l'exigence d'abord que certaines entreprises mettent ça bloque déjà certains jeunes diplômés qui pourraient peut-être être visibles. Et vous avez toujours dans votre discours la demande d'expérience de 5 ans et de suite. Il y a même des comédiens qui disent à l'école, on ne peut pas enseigner l'école à l'expérience professionnelle. On finit, on doit acquérir l'expérience. Mais allant dans les vices du cité, pour décrocher de l'emploi dans le domaine socio-culturel qui est habité, c'est facile si seulement on sait s'appuyer au préalable. Parce qu'il y a des pratiques qu'on peut encourager et d'autres qu'on ne peut pas encourager. Certaines personnes respectent vraiment ce qui dit le code du travail, ce qui dit le document, mais nombreuses institutions. Monsieur Tati, je vous dis, ici d'abord où nous sommes, je ne le respecte pas. Les entreprises qui se transforment en des entreprises familiales, les entreprises familiales se transforment en des entreprises personnelles ou individuelles, ce qui limite la compétitivité, soit ferme l'opportunité à d'autres jeunes qui pourraient peut-être assumer à ça. Mais selon moi, pour que cela soit une réalité, si à l'heure de ce il fallait d'abord créer la division du travail. Parce que si chacun d'abord respecte son travail, parce que vous pouvez être tranquille dans une entreprise. Il y a une entreprise qui pourrait même demander 10 personnes, ça c'est un personnel de 15 agents, mais il y a seulement 4 ou 5 personnes. Beaucoup de personnes sont dans une fonction similaire. Ils travaillent, sont des comptables après c'est ça. Si d'abord on respecte la division du travail, ça peut ouvrir l'opportunité à d'autres jeunes d'avoir l'emploi. Parce que là, il y aura d'abord la carrière. Le reste, les principes légaux, les citatifs. Si on respectait réellement les principes que dit la loi, le Congo, on manquera seulement de travailleurs, mais les emplois seront là. Mais quand on ne respecte pas ce que dit la loi dans le recrutement, dans le processus de recrutement, les citatifs, je vous assure que nombreux jeunes vont se transformer à des autres parce qu'ils n'auront pas
l'accès à l'emploi.
Un emploi d'enseignement ici à Bukavu, depuis là où c'est un casse-tête. On ne peut pas même quelqu'un qui dit comment tu peux travailler pour 20 dollars, mais comment tu cherches, comment avoir cet emploi-là de 20 dollars. Et donc, il y a quelque chose d'illégalité qui se fait dans le.
Oui, monsieur Minon, s'il vous plaît, les constats là que vous faites concernent et les ONG internationales et les entreprises publiques et privées. Je pense que généralement c'est du côté public qui a ces clientélismes que vous dénoncez. Excellente journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ces rendez-vous et excellente journée au niveau de la ville de Bukavu. Monsieur Alain, comment répondez-vous à nos auditeurs? Commençons par Saïdi de Kisangani.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je commence d'abord par féliciter monsieur Franck de Vienne. Et notre ami, monsieur
Blaise Saïdi de Kisangani.
Il y a l'autre qui est parti de son expérience personnelle, monsieur Achille de
Lubumbashi.
Je pense que ce sont des gens qui ont très bien compris la problématique. À un moment donné, monsieur le journaliste, nous devons faire un effort de dire la vérité aux gens, sans être tourné,
sans aller par les dos de la cuillère.
Voilà, tout à fait, c'est très important. Je vous ai dit ici qu'il y a 7 causes du chômage en République démocratique du Congo. Je vous ai parlé premièrement de l'inadéquation qu'il y a entre la formation et les profils recherchés par les
exigences des entreprises.
Ça, c'est le point majeur. Peu importe ce qu'on peut essayer de donner comme argument ou vécu, mais je vous assure, dès lors que il y a la problématique,
il faut d'abord opérer des réformes au niveau de la formation.
Mais justement, dès lors qu'il y a cette problématique de l'inadéquation entre la formation et les profils recherchés, en tout cas, on peut tout dire, on ne trouvera pas solution. Deuxièmement, ceux qui cherchent de l'emploi, comment font-ils cette recherche d'emploi? Parce que ce que j'entends ici, je peux vous dire, monsieur le journaliste, s'il faut se focaliser sur les contraintes liées à l'environnement, je vous assure, vous n'allez pas travailler. Ce sont des choses qui peuvent vous démotiver, vous décourager davantage. Parce que ces contraintes-là doivent toujours exister. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous, personnellement, qu'est-ce qu'on fait? On a segmenté les marchés. On doit être clair. On parle de quel marché? De marché fermé ou de marché ouvert? Parce que moi qui suis en face de vous ici, je peux vous le dire avec modestie, j'ai travaillé dans 6 organisations internationales et dans 2 multinationales. Mais je peux vous assurer que toutes ces offres, moi je les ai trouvées que sur Media Congo.
Vous n'êtes pas passé par des personnes interposées.
Dieu m'entend. Je peux dire que la seule recommandation que je reconnais, c'est Dieu, s'il faut le dire dans ce sens-là. Ce sont des offres que moi j'ai vues. Mais le problème, lorsque on est en face d'une offre d'emploi, comment analysons-nous l'offre d'emploi?
Et comment concevons-nous les CV qui doivent s'adapter?
Qu'est-ce que vous pouvez constater? Ici, je vais vraiment porter ma casquette d'un directeur des ressources humaines. Qu'est-ce que nous constatons souvent lorsque les gens postulent? Monsieur le journaliste, les gens focalisent leur attention que sur les diplômes demandés dans l'offre, et la date
de clôture
de dépôt de candidature. Les gens ne prennent pas le temps d'analyser les termes de référence de l'offre. Et qu'est-ce que vous pouvez constater? Il suffit que dans l'offre d'emploi, qu'on ait exigé un diplôme, par exemple, en économie, et la personne qui a lu l'offre a fini en droit, il vous dira directement que c'est pas mon domaine. Il laisse tomber. Alors, les gens confondent la qualification qui est un diplôme à la compétence. Donc, c'est deux choses différentes.
L'expérience.
Voilà. Et puis, il y a cette problématique des années d'expérience que beaucoup de recruteurs exigent dans les offres. Alors, vous allez vous rendre compte que ceux qui cherchent de l'emploi, pour la plupart, sont ceux qui sortent fraîchement de l'université. Ils n'ont pas encore travaillé.
L'expérience.
Dès qu'ils regardent dans l'offre d'emploi, on leur demande 3 à 5 ans d'expérience. La personne est démotivée, la personne renonce
à l'offre.
Oui. Mais la question que l'on ne se pose pas, qui est né avec l'expérience professionnelle?
Personne.
Parce qu'il faut faire la différence entre l'expérience professionnelle et les compétences professionnelles. Je peux manquer l'expérience, mais j'ai des compétences techniques.
Voilà. Par rapport à ces postes.
Raison pour laquelle, quand vous regardez l'offre d'emploi, monsieur le journaliste, l'offre d'emploi a 4 parties. Mais il y a une partie dans l'offre, c'était écrit profil ou exigence.
Profil recherché.
Voilà, ou exigence. Il y a certaines compétences qu'on exige.
Par exemple, sur l'offre,
capacité rédactionnelle, capacité de communication,
ou de parler deux ou trois langues,
à travailler sous pression, maîtrise de l'utilisation de l'outil
informatique.
Maîtrise des procédures des bailleurs de fonds, par exemple. Est-ce que ça, il faut nécessairement travailler d'abord?
Non.
Maintenant, le problème est celui-ci. Les enseignements qui sont dispensés à l'université n'ont rien à voir avec ce qu'on fait au bureau au quotidien. Alors, maintenant, malheureusement, ceux qui cherchent de l'emploi n'ont pas cette information. Ils sont à l'auditoire, on leur fait croire que pour devenir utile dans la vie, il faut faire l'université. On leur fait croire que vous êtes des futurs cadres. Et maintenant, on mémorise cette communication. On ne les a pas dit comment fonctionne le monde professionnel. Et du coup, lorsqu'ils finissent, ils doivent aller chercher de l'emploi. Ils sont butés à des sérieux problèmes. Je vous ai donné l'exemple ici, monsieur le journaliste. J'ai commencé ma vie professionnelle en 2006. Nous sommes en 2025. Tout ce qu'on m'a enseigné à l'auditoire, Henri Fayol, Taylor, David Ricardo, pyramide de Maslow, les équations de Lagrange, je ne les ai jamais pratiquées au bureau. Ça n'existe même pas. Alors, ce sont des cours qui nous ont été dispensés pour la réflexion, mais pas pour la profession. La profession n'a rien à voir avec
la réalité.
Non, tout à fait. Alors, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est comme cela que moi, je suis tout à fait d'accord avec notre ami Franck. Ailleurs, même parce que vous parlez de comment trouver de l'emploi dans les systèmes multidisciplinaires, par exemple. Monsieur le journaliste, je vais donner aux auditeurs 5 techniques d'intégration professionnelle dans un marché ou dans un monde, un environnement multiculturel. La première des choses, monsieur le journaliste, lorsque vous terminez vos études universitaires, ne soyez pas pressé pour chercher de l'emploi. Ça, c'est une grosse erreur. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord identifier les intitulés des postes qui reviennent souvent dans les offres d'emploi. C'est-à-dire, à chaque fois que vous consultez les offres, quels sont les postes qui reviennent
dans les offres? Qui sont recherchés le plus souvent.
Tout à fait. Vous les notez. Ça peut être 3 ou 4 postes. Je peux prendre un exemple simple. Vous avez la logistique, vous avez charrue automobile, vous avez suivi évaluation, vous avez mobilisateur communautaire, vous avez gestionnaire des projets, assistant administratif. Vous notez ça. La deuxième étape, c'est d'imprimer pour chaque poste au moins 3 offres. Donc, 3 offres d'emploi du même poste, mais publiées par 3 à 5 entreprises différentes. La troisième étape, c'est d'analyser les termes de référence de chaque poste. Par exemple, je prends l'offre de la logistique publiée par Médecins Sans Frontières. Je commence à l'analyser pour comprendre quelles sont les tâches d'un logisticien.
Les conditions.
Quelles sont les conditions, les exigences.
Est-ce que ce sont les mêmes conditions?
Voilà. Je les compare avec Chris and Ed pour le même poste, par exemple. Après, il y a une question fondamentale. C'est de faire la comparaison entre ce que vous trouvez dans les offres comme exigences, comme les profils recherchés, comme la description des tâches qu'on appelle les job descriptions, qu'on a ensemble de deux, on dit terme de référence. Mm. Vous comparez ça avec tout ce que vous avez eu à l'université comme matière, comme cours. Pour identifier les compétences que vous possédez et celles que vous ne possédez pas. Vous comprenez?
Oui.
Les compétences que vous possédez et celles que vous ne possédez pas,
qui peuvent être comblées par des formations.
Tout à fait. Mm. Maintenant, l'étape qui suit, c'est ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de chercheurs d'emploi ne font pas. Les gens focalisent leurs recherches d'emploi que à des postes qui correspondent aux études faites, ou alors ils focalisent leurs recherches d'emploi que au diplôme. Les gens ne prennent pas le temps, monsieur les journalistes. Comment pouvez-vous imaginer une personne qui vient de l'université, qui veut postuler à un poste d'un chargé de suivi, évaluation, mais il n'a aucun certificat des formations professionnelles en suivi et évaluation, à part son diplôme en développement rural ou développement communautaire. Ça pose problème.
Mm.
Donc, vous devez identifier les compétences que vous possédez et les compétences qui vous manquent. Maintenant, il faut mettre en place ce qu'on appelle le plan de reconversion professionnelle. C'est-à-dire, comment je dois acquérir des compétences que je manque. Ces compétences-là que vous manquez, vous pouvez les acquérir que par des formations,
par les biais des formations professionnelles
supplémentaires à votre qualification. Mmh. Ça, c'est important.
Mmh.
Après, il y a ce qu'on appelle la loi de la petitesse. Je donne le cas de notre ami
Achille de Lubumbashi. Mmh.
Parce qu'il faut comprendre une chose. Il y a certaines organisations dans leur système de recrutement. Moi, je peux vous donner l'exemple du système des Nations Unies. Il ne faut pas qu'on aille loin. La majorité des gens qui sont devenus des national officers, des administrateurs ici, ont commencé lorsque la MONUSCO est arrivée à l'époque. Ils étaient à l'aéroport comme des bagagistes.
Tout à fait.
Les gens qui travaillent à la manutention, mais oui, des licenciés en sciences politiques administratives. Mais après, ils ont évolué. Je connais même quelqu'un, je cite pas son nom, qui était même devenu, je crois, soit adjoint ou chef de la section sécurité de la MONUSCO dans un des pays africains. Mais j'ai l'histoire quand il a commencé ici à la MONUSCO à l'époque. Donc c'est pour dire que...
Et nous ne devons pas négliger les petits commencements, les petits départs.
C'est très important. Mm. C'est très important. Et il faudrait s'assurer que mon profil correspond aux exigences du recruteur. Et ça, il faut passer par des formations et ce qu'on appelle...
À compétences professionnelles.
C'est très important.
On va aller à Kikwit, s'il vous plaît, Alain. Il y a un auditeur qui attend. On lui donne la parole et puis on va retourner ici. Monsieur, bienvenue. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, cher Marcel. Bonjour aussi, Alain Poutou.
Bonjour.
On vous écoute. C'est plutôt Tati à l'antenne.
Ah, excusez-moi, Tati. Juste une petite question à Alain Poutou. Je vais bien quand tu le parles à chaque fois. J'ai toujours eu cette tendance de lui poser la même question. Nous voyons là, il est tenté de proposer surtout les jeunes qui cherchent leur premier emploi à intégrer les centres de formation. Mais il se passe presque la même chose. Vous verrez que les jeunes qui aillent dans des centres de formation pour avoir une formation professionnelle, en quelque sorte, c'est l'université BIS. Là, ils sont encore pompés. On leur donne encore des théories qui ne valent absolument rien. Est-ce qu'à ce stade-là, moi je dirais, ces centres de formation n'ont pas vocation, excusez-moi le terme, de scroquer encore les jeunes, parce qu'en réalité, il n'y a pas du concret. On reste encore dans les théories, les jeunes qui y sortent encore restent toujours dans le chômage. Voilà une ou deux questions que je pouvais poser à Alain.
Merci beaucoup, hein, monsieur, bienvenue Kinkala. Nous rappelons que c'est depuis la ville de Kikwit que vous intervenez. Mais cher Alain, il y a également, dans le cadre des réformes, le système LMD qui a été initié. On suppose que les constats que vous faites, les problèmes qu'il y a d'inadéquation entre la formation professionnelle et l'enseignement, les profils que les universités forment, il y aura adéquation, ils vont tenir compte de ces aspects-là. Et comment répondez-vous à l'auditeur de Kikwit?
Oui, ce système LMD, excusez-moi, par rapport au système traditionnel, je vous dis que ça ne va rien changer. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le système, les contenus. Vous avez vérifié dans ce système LMD, on a associé ceux qui travaillent et aux professeurs à thèse.
Non, on n'a pas associé.
Vous êtes un journaliste professionnel. Depuis que vous êtes ici, quel jour les universités ou les institutions supérieures universitaires qui ont la filière de communication et de journalisme sont venus vous voir ici pour dire, venez à l'auditoire.
Partagez
votre expérience. Les cours des 120 heures, vous prenez 60 heures. On donne aux professeurs à thèse 60 heures pour que vous puissiez dire aux gens ce que vous faites au bureau. Vous voyez, c'est là où il y a un problème. Non, il faut qu'on soit sincère. On a les cours de comptabilité. Je vous ai dit que moi, je suis passé par l'université. Vous avez le professeur à thèse qui prend une partie Et l'autre partie qu'on appelle des pratiques professionnelles, on donne à l'assistant. L'assistant non plus n'est pas comptable dans une entreprise. Mais si on pouvait aller dans une entreprise, faire recours à un comptable
qui a travaillé pendant 15, 20 ans.
Voilà, soit il est comptable en fonction ou il a été comptable, qu'il vienne à l'auditoire avec un rétroprojecteur, un ordinateur, qu'il vous montre la comptabilité que lui-même a tenue au bureau, ça va permettre aux étudiants de sortir de l'université avec des compétences professionnelles. Malheureusement, c'est ce qu'on ne fait pas. Vous comprenez? Alors, par rapport à la question de monsieur Bienvenu de Kikwit, mais attendez, quand on parle de formation professionnelle ou de formation à compétences professionnelles, on ne parle pas de théorie. Je vais vous donner un exemple concret. Si on doit former des journalistes terrain, je ne parle pas des experts en communication, je parle des journalistes terrain, on va faire recours à qui? À vous qui êtes des praticiens
dans la pratique du métier.
Mais voilà, quand vous arriverez dans la salle de formation, vous devez former des journalistes terrain. Vous n'allez pas commencer par l'histoire de la communication la définition du micro. Non. Vous allez dire à la personne comment présenter une émission, comment se tenir devant le micro, les postures à adopter.
Comment collecter les données sur le terrain.
Justement, ça c'est ce qu'on appelle la formation à compétences professionnelles. Maintenant, les gens là dont ils parlent ici, qu'ils organisent des formations, mais la faute de qui? Il faut lire les profils du formateur. Comment pouvez-vous imaginer une personne qui n'a jamais travaillé aux ressources humaines? Il donne la formation aux ressources humaines. Je vous ai donné un exemple ici. J'ai eu des cours de ressources humaines en deuxième gradué ou en troisième. Lorsque je suis devenu directeur des ressources humaines, j'ai pris les syllabus de l'un des professeurs. Je ne cite pas les noms. Je regarde son syllabus à ce que moi j'ai fait au bureau au quotidien. Comme
les jours et la nuit.
Mais les jours et la nuit. Quelqu'un qui vous parle des calculs et des comptes finaux, lui-même n'a jamais calculé un des comptes finaux. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous regardez ce qui s'est fait. Par exemple, l'élaboration de procès verbal disciplinaire. Mais à l'auditoire, on n'enseigne pas ces choses. Vous comprenez, on va vous parler des pensions d'invalidité, la législation sociale, ça c'est en théorie. Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est autre chose.
Les accidents de travail,
mais
tout ça, oui.
Justement, vous comprenez un peu. Donc c'est cela le problème. Raison pour laquelle, normalement, la personne qui est censée dispenser la formation, c'est la personne qui a déjà occupé les postes en rapport avec les modules de formation qu'il dispense. Si quelqu'un n'a jamais été journaliste, il donne la formation de journaliste, mais il va enseigner les livres, il va enseigner ses
compétences, définitions
ou des choses qu'il a ramassées
dans des documents.
Je vais vous faire rire. À l'époque, j'ai formé quelqu'un. Après l'avoir formé, cette personne n'a jamais travaillé aux ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'internet, il fait des recherches, il confectionne les syllabus avec un français limpide, il commence à former. Mais depuis quand il a déjà été aux ressources humaines? Il n'a jamais été aux ressources humaines. Donc c'est comme cela que vous voyez, si vous tombez dans ces cas, en tout cas ça ne sera pas différent à l'université. Parce que je peux vous dire une chose, monsieur le journaliste, si vous regardez le volume d'heures des cours qu'on a à l'université, si on peut rester pratique, vous allez vous rendre compte que au bout de 20 heures, on vous a dit ce que vous devez faire sur le terrain. Vous voyez un peu? Ça, c'est très important. Alors, le problème, c'est ça. C'est notre système éducatif qui n'a pas tenu compte. Ça, c'est un système qu'on a hérité de l'époque coloniale. Il y avait une raison spécifique pour mettre en place ce système. On est dans les années 1954-56, quand on a commencé avec l'université de Kinshasa. Mais les réalités actuelles du marché de l'emploi ont évolué.
Ont changé.
Le marché est en mutation, mais le système éducatif est resté obsolète. C'est cela le problème.
Ouais.
Et puis, c'est ce complexe où tout le monde veut être licencié, monsieur le journaliste. Voyez même les institutions supérieures qu'on avait avant.
Toutes ces
institutions-là ont migré à l'université. Ont migré au système LMDC. Pourquoi?
C'est ça la question. Finalité?
Pour quelle finalité?
Merci beaucoup, cher Alain. Le temps imparti au rendez-vous est complètement épuisé. C'était très intéressant et on espère que c'est pas la dernière fois. Nous rappelons que vous êtes formateur et coordonnateur du Centre des Réconversions et Insertions Professionnelles. Excellente journée et à la prochaine occasion.
Merci beaucoup. Nous sommes très ouverts. Si des auditeurs ont des questions pour lesquelles on n'a pas répondu par faute de temps, ils peuvent nous contacter sur WhatsApp au 082 53 90 016. On va aller expliquer tout ce qu'il y a.